Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous reprenons donc nos lectures en liberté et après le roman de Emily Brontë qui nous a raconté donc cette histoire d'amour tragique, nous allons aller tranquillement jusqu'à l'été avec quelques extraits d'un roman de Georges Perec, Les Choses. C'est un roman de 1965 qui a reçu à l'époque le prix Renaudot. Les Choses donc de Georges Perec. L'œil d'abord glisserait sur la moquette grise d'un long corridor, haut et étroit. Les murs seraient des placards de bois clair, dont les ferrures de cuivre luiraient. Trois gravures représentant l'une Thunderbird, vainqueur à Epsom, l'autre un navire à aube, le Vil de Montereau, la troisième une locomotive de Stephenson, mènerait à une tenture de cuir retenue par de gros anneaux de bois noir veiné et qu'un simple geste suffirait à faire glisser. La moquette alors laisserait place à un parquet presque jaune que trois tapis aux couleurs éteintes recouvriraient partiellement. Ce serait une salle de séjour, longue de 7 mètres environ, large de 3. À gauche, dans une sorte d'alcôve, un gros divan de cuir noir fatigué serait flanqué de deux bibliothèques en merisier pâle, où des livres s'entasseraient pêle-mêle. Au-dessus du divan, un portulan occuperait toute la longueur du panneau. Au-delà d'une petite table basse sous un tapis de prière en soie, accroché au mur par trois clous de cuivre à grosse tête et qui ferait pendant à la tenture de cuir un autre divan, perpendiculaire au premier recouvert de velours brun clair, conduirait à un petit meuble haut sur pied, laqué de rouge sombre, garni de trois étagères qui supporteraient des bibelots, des agates et des œufs de pierre, des boîtes à priser, des bonbonnières, des cendriers de jade, une coquille de nacre, une montre de gousset en argent, un verre taillé, une pyramide de cristal, une miniature dans un cadre ovale. Plus loin, après une porte capitonnée, des rayonnages superposés faisant le coin contiendraient des coffrets et des disques à côté d'un électrophone fermé dont on n'apercevrait que quatre boutons d'acier guilloché et que surmonterait une gravure représentant le grand défilé de la fête du carrousel. De la fenêtre, garnie de rideaux blancs et bruns, imitant la toile de Jouy, on découvrirait quelques arbres, un parc minuscule, un bout de rue. Un secrétaire à rideaux encombré de papier, de plumier, s'accompagnerait d'un petit fauteuil canné. Une Athénienne supporterait un téléphone, un agenda de cuir, un bloc-notes. Puis, au-delà d'une autre porte, après une bibliothèque pivotante, basse et carrée, surmontée d'un grand vase cylindrique à décor bleu, rempli de roses jaunes et que surplomberait une glace oblongue, sertie dans un cadre d'acajou, une table étroite, garnie de deux banquettes tendues d'écossais, ramènerait à la tenture de cuir. Tout serait brun, ocre, fauve, jaune. Un univers de couleurs un peu passées, aux tons soigneusement, presque précieusement dosés, au milieu desquels surprendraient quelques taches plus claires. L'orange presque criard d'un coussin, quelques volumes bariolés perdus dans les reliures. en plein jour, la lumière entrant à flot rendrait cette pièce un peu triste, malgré les roses. Ce serait une pièce du soir. Alors l'hiver, rideau tiré après quelques points de lumière, le coin des bibliothèques, la discothèque, le secrétaire, la table basse entre les deux canapés, les vagues reflets dans les miroirs, et les grandes zones d'ombre où brilleraient toutes les choses, le bois poli, la soie lourde et riche, le cristal taillé, le cuir assoupli, elle serait havre de paix, terre de bonheur. La première porte ouvrirait sur une chambre au plancher recouvert d'une moquette claire. Un grand lit anglais en occuperait tout le fond à droite. De chaque côté de la fenêtre, deux étagères étroites et hautes contiendraient quelques livres inlassablement repris, des albums, des jeux de cartes, des pots, des colliers, des pacotilles. À gauche, une vieille armoire de chêne et deux valets de bois et de cuivre feraient face à un petit fauteuil crapaud, tendu d'une soie grise finement rayée, et à une coiffeuse. Une porte entr'ouverte, donnant sur une salle de bain, découvrirait d'épais peignoirs de bain, des robinets de cuivre en col de cygne, un grand miroir orientable, une paire de rasoirs anglais et leurs fourreaux de cuir vert, des flacons, des brosses à manches de corne, des éponges. Les murs de la chambre seraient tendus d'indienne. Le lit serait recouvert d'un plaid écossais. Une table de chevet, ceinturée sur trois faces d'une galerie de cuivre ajourée, supporterait un chandelier d'argent surmonté d'un abat-jour de soie gris très pâle. Une pendulette quadrangulaire, une rose dans un verre à pied et, sur sa tablette inférieure, les journaux pliés, quelques revues. Plus loin, au pied du lit, il y aurait un gros pouf de cuir naturel. Aux fenêtres, les rideaux de voile glisseraient sur des tringles de cuivre. Les doubles rideaux gris, en lainage épais, seraient à moitié tirés. Dans la pénombre, la pièce serait encore claire. Au mur, au-dessus du lit, préparé pour la nuit, entre deux petites lampes alsaciennes, l'étonnante photographie, noire et blanche, étroite et longue, d'un oiseau en plein ciel, surprendrait par sa perfection un peu formelle. La seconde porte découvrirait un bureau. Les murs, de haut en bas, seraient tapissés de livres et de revues, avec ça et là, pour rompre la succession des reliures et des brochages, quelques gravures, des dessins, des photographies, le Saint-Jérôme d'Antonello de Messine, un détail du triomphe de Saint-Georges, une prison du Piranèse, un portrait de Ingres, un petit paysage à la plume de Clis, une photographie bistrée de Renan dans son cabinet de travail au Collège de France, un grand magasin de Steinberg, le Melanchthon de Cranach, fixés sur des panneaux de bois encastrés dans les étagères. Un peu à gauche de la fenêtre et légèrement en biais, une longue table lorraine serait couverte d'un grand buvard rouge. Des sébilles de bois, de longs plumiers, des pots de toutes sortes contiendraient des crayons, des trombones, des agrafes, des cavaliers. Une brique de verre servirait de cendrier. Une boîte ronde en cuir noir décorée d'arabesques à l'or fin serait remplie de cigarettes. La lumière viendrait d'une vieille lampe de bureau malaisément orientable, garnie d'un abat-jour d'opaline verte en forme de visière. De chaque côté de la table, se faisant presque face, il y aurait deux fauteuils de bois et de cuir à haut dossier. Plus à gauche encore, le long du mur, une table étroite déborderait de livres. Un fauteuil club de cuir vert bouteille mènerait à des classeurs métalliques gris, à des fichiers de bois clair. Une troisième table, plus petite encore, supporterait une lampe suédoise et une machine à écrire recouverte d'une housse de toile cirée. Tout au fond, il y aurait un lit étroit, tendu de velours outre-mer, garni de coussins et de toutes couleurs. Je reprends. Garni de coussins de toutes couleurs, Un trépied de bois peint, presque au centre de la pièce, porterait une mappemonde de Maïchor et de carton bouilli, naïvement illustré, faussement ancienne. Derrière le bureau, à demi masqué par le rideau rouge de la fenêtre, un escabeau de bois ciré pourrait glisser le long d'une rampe de cuivre qui ferait le tour de la pièce. La vie, là, serait facile, serait simple. Toutes les obligations, tous les problèmes qu'implique la vie matérielle trouveraient une solution naturelle. Une femme de ménage serait là chaque matin. On viendrait livrer chaque quinzaine le vin, l'huile, le sucre. Il y aurait une cuisine vaste et claire, avec des carreaux bleus armoiriés, trois assiettes de faïence décorées d'arabesques jaunes à reflets métalliques, des placards partout, une belle table de bois blanc au centre, des tabourets, des bancs. Il serait agréable de venir s'y asseoir chaque matin, après une douche, à peine habillée. Il y aurait sur la table un gros beurrier de grès, des pots de marmelade, du miel, des toasts de pamplemousse coupés en deux. Il serait tôt. Ce serait le début d'une longue journée de mai. Ils décachetteraient leurs courriers, ils ouvriraient les journaux, ils allumeraient une première cigarette, ils sortiraient. Leur travail ne les retiendrait que quelques heures le matin. Ils se retrouveraient pour déjeuner d'un sandwich ou d'une grillade selon leur humeur. Ils prendraient un café à une terrasse, puis rentreraient chez eux à pied, lentement. Leur appartement serait rarement en ordre, mais son désordre même serait son plus grand charme. Ils s'en occuperaient à peine. Ils y vivraient. Le confort ambiant leur semblerait un fait acquis, une donnée initiale, un état de leur nature. Leur vigilance serait ailleurs, dans le livre qu'ils ouvriraient, dans le texte qu'ils écriraient, dans le disque qu'ils écouteraient, dans leur dialogue chaque jour renoué. Ils travailleraient longtemps sans fébrilité et sans hâte, sans aigreur, puis ils dîneraient, où sortiraient dîner. Ils retrouveraient leurs amis. Ils se promèneraient ensemble. Il leur semblerait parfois qu'une vie entière pourrait harmonieusement s'écouler entre ces murs couverts de livres, entre ces objets si parfaitement domestiqués qu'ils auraient fini par les croire de tout temps créés à leur unique usage, entre ces choses belles et simples, douces, lumineuses. Mais ils ne s'y sentiraient pas enchaînés. Certains jours, ils iraient à l'aventure. Nul projet ne leur serait impossible. Ils ne connaîtraient pas la rancœur, ni l'amertume, ni l'envie, car leurs moyens et leurs désirs s'accorderaient en tout point et en tout temps. Ils appelleraient cet équilibre bonheur et sauraient par leur liberté, par leur sagesse, par leur culture, le préserver, le découvrir à chaque instant de leur vie commune.
Betty raconte qu'elle était fiancée à Jimmy. En tout cas, la bague qu'elle a au doigt, je suis sûre que c'est lui qui lui a donné.
Tous les soirs à la sortie du lycée, il allait la chercher avec sa moto. Et tu sais, il conduisait comme un fou.
Elle l'a rencontré au drugstore. Il s'est retourné, lui a souri. Elle l'a aimé, lui le chef de la vente. Son père, sa mère. C'est le chef de la bande. de la bande.
Il a souri, l'a embrassé, puis il a dit adieu. Il paraît qu'il avait des larmes dans les yeux. Quand il a démarré dans la nuit, il pleuvait. Elle lui a dit de ralentir, mais est-ce qu'il l'a entendu quand elle a crié?
Attention! Arrête! Attention! Attention!
Ah! Elle pense à lui presque tout le temps. Elle se souvient de leur bon moment. Chef de la bande. Le chef de la bande qu'elle a aimé. Le chef de la bande qu'elle a aimé. Le chef de la bande qu'elle a aimé. Le chef de la bande.
Lectures en liberté. Denis Flagel.
Les choses, Georges Perec. Ils auraient aimé être riches. Ils croyaient qu'ils auraient su l'être. Ils auraient su s'habiller, regarder, sourire comme des gens riches. Ils auraient eu le tact, la discrétion nécessaire. Ils auraient oublié leur richesse, auraient su ne pas l'étaler. Ils ne s'en seraient pas glorifiés. Ils l'auraient respiré. Leur plaisir aurait été intense. Ils auraient aimé marcher, flâner, choisir, apprécier. Ils auraient aimé vivre. Leur vie aurait été un art de vivre. Ces choses-là ne sont pas faciles, au contraire, pour ce jeune couple qui n'était pas riche, mais qui désirait l'être simplement parce qu'il n'était pas pauvre. Il n'existait pas de situation plus inconfortable. Ils n'avaient que ce qu'ils méritaient d'avoir. Ils étaient renvoyés, alors que déjà ils rêvaient d'espace, de lumière, de silence, à la réalité. Même pas sinistre, mais simplement rétrécie. Et c'était peut-être pire. De leur logement exigu, de leur repas quotidien, de leurs vacances chétives. C'était ce qui correspondait à leur situation économique, à leur position sociale. C'était leur réalité et ils n'en avaient pas d'autre. Mais il existait à côté d'eux, tout autour d'eux, tout au long des rues où ils ne pouvaient pas ne pas marcher, les offres fallacieuses et si chaleureuses pourtant des antiquaires, des épiciers, des papetiers. Du Palais Royal à Saint-Germain, du Champ de Mars à l'Étoile, du Luxembourg à Montparnasse, de l'île Saint-Louis au Marais, des Ternes à l'Opéra, de la Madeleine au Parc Monceau, Paris entier était une perpétuelle tentation. Il brûlait d'y succomber avec ivresse, tout de suite et à jamais. Mais l'horizon de leur désir était impitoyablement bouché, leur grande rêverie impossible n'appartenait qu'à l'utopie. Il vivait dans un appartement minuscule et charmant au plafond bas qui donnait sur un jardin. Et se souvenant de leur chambre de bonne, un couloir sombre et étroit surchauffé aux odeurs tenaces, ils y vécurent d'abord dans une sorte d'ivresse renouvelée chaque matin par le pépiment des oiseaux. Ils ouvraient les fenêtres et pendant de longues minutes, parfaitement heureux, ils regardaient leur cour. La maison était vieille, non point croulante encore, mais vétuste, lézardée. Les couloirs et les escaliers étaient étroits et sales, suintants d'humidité, imprégnés de fumée graisseuse. Mais entre deux grands arbres et cinq jardinets minuscules de forme irrégulière, pour la plupart à l'abandon, mais riches de gazons rares, de fleurs en pot, de buissons, de statues naïves, circulait une allée de gros pavés irréguliers qui donnait au tout un air de campagne. C'était l'un de ces rares endroits à Paris où il pouvait arriver, certains jours d'automne, après la pluie, que monta du sol une odeur presque puissante de forêt, d'humus, de feuilles pourrissantes. Jamais ses charmes ne les lassèrent, et ils y demeurèrent toujours aussi spontanément sensibles qu'au premier jour. Mais il devint évident, après quelques mois, d'une trop insouciante allégresse, qu'il ne saurait suffire à leur faire oublier les défauts de leur demeure. Habitués à vivre dans des chambres insalubres où ils ne faisaient que dormir et à passer leur journée dans des cafés, il leur fallut longtemps pour s'apercevoir que les fonctions les plus banales de la vie de tous les jours, dormir, manger, lire, bavarder, se laver, exigeaient chacune un espace spécifique dont l'absence notoire commença dès lors à se faire sentir. Ils se consolèrent de leur mieux, se félicitant de l'excellence du quartier, de la proximité de la rue Mouffetard et du jardin des plantes, du calme de la rue, du cachet de leur plafond bas et de la splendeur des arbres et de la cour tout au long des saisons. Mais à l'intérieur, tout commençait à crouler sous l'amoncellement des objets, des meubles, des livres, des assiettes, des paperasses, des bouteilles vides. Une guerre d'usure commençait dont il ne sortirait jamais vainqueur. Pour une superficie totale de 35 mètres carrés qu'ils n'osèrent jamais vérifier, leur appartement se composait d'une entrée minuscule, d'une cuisine exiguë dont une moitié avait été aménagée en salle d'eau, d'une chambre aux dimensions modestes, d'une pièce à tout faire, bibliothèque, salle de séjour ou de travail, chambre d'amis, et d'un coin mal défini à mi-chemin du cagibi et du corridor, où parvenait à prendre place un réfrigérateur de petit format, un chauffe-eau électrique, une penderie de fortune, une table où ils prenaient leur repas et un coffre à linge sale qui leur servait également de banc. Certains jours, l'absence d'espace devenait tyrannique. Ils étouffaient. Mais ils avaient beau reculer les limites de leurs deux pièces, abattre des murs, susciter des couloirs, des placards, des dégagements, imaginer des penderies modèles, annexer en rêve les appartements voisins, ils finissaient toujours par se retrouver dans ce qui était leur lot, leur seul lot, 35 mètres carrés. Des arrangements judicieux auraient sans doute été possibles. Une cloison pouvait sauter, libérant un vaste coin mal utilisé. Un meuble trop gros pouvait être avantageusement remplacé. Une série de placards pouvait surgir. Sans doute, alors pour peu qu'elle fût repeinte, décapée, arrangée avec quelque amour, leur demeure eût-elle été incontestablement charmante, avec sa fenêtre au rideau rouge et sa fenêtre au rideau vert, avec sa longue table de chêne un peu branlante, achetée aux puces, qui occupait toute la longueur d'un panneau au-dessous de la très belle reproduction d'un portulan, et qu'une petite écritoire à rideau Second Empire en acajou incrusté de baguettes de cuivre, dont plusieurs manquaient, séparait en deux plans de travail, pour Sylvie à gauche, pour Jérôme à droite. Chacun marqué par un même buvard rouge, une même brique de verre, un même pot à crayon. Avec son vieux bocal de verre, serti d'étain qui avait été transformé en lampe. Avec son décalitre à grains en bois déroulé, renforcé de métal qui servait de corbeille à papier. Avec ses deux fauteuils hétéroclites, ses chaises paillées, son tabouret de vacher. Et il se serait dégagé de l'ensemble propre et net, ingénieux, une chaleur amicale, une ambiance sympathique de travail, de vie commune. Mais la seule perspective des travaux les effrayait. Il leur aurait fallu emprunter, économiser, investir. Ils ne s'y résignaient pas. Le cœur n'y était pas. Ils ne pensaient qu'en termes de tout ou rien. La bibliothèque serait de chêne clair ou ne serait pas. Elle n'était pas. Les livres s'empilaient sur deux étagères de bois sale et sur deux rangs dans des placards qui n'auraient jamais dû leur être réservés. Pendant 3 ans, une prise de courant demeura défectueuse sans qu'il se décide à faire venir un électricien. Cependant que couraient sur presque tous les murs des fils aux épissures grossières et des rallonges disgracieuses. Il leur fallut 6 mois pour remplacer un cordon de rideau. Et la plus petite défaillance dans l'entretien quotidien se traduisait en 24 heures par un désordre que la bienfaisante présence des arbres et des jardins si proches rendait plus insupportable encore. Le provisoire, le statu quo, régnait en maître absolu. Il n'attendait plus qu'un miracle. Ils auraient fait venir les architectes, les entrepreneurs, les maçons, les plombiers, les tapissiers, les peintres. Ils seraient partis en croisière et auraient trouvé à leur retour un appartement transformé, aménagé, remis à neuf. Un appartement modèle, merveilleusement agrandi, plein de détails à sa mesure, des cloisons amovibles, des portes coulissantes, un moyen de chauffage efficace et discret, une installation électrique invisible, un mobilier de bon aloi. Mais entre ces rêveries trop grandes, auxquelles ils s'abandonnaient avec une complaisance étrange, et la nullité de leurs actions réelles, nul projet rationnel qui aurait concilié les nécessités objectives et leurs possibilités financières ne venait s'insérer, l'immensité de leurs désirs les paralysait. Cette absence de simplicité, de lucidité presque, était caractéristique. L'aisance, c'est sans doute ceci qui était le plus grave, leur faisait cruellement défaut. Non pas l'aisance matérielle, objective, mais une certaine désinvolture, une certaine décontraction. Ils avaient tendance à être excités, crispés, avides, presque jaloux. Leur amour du bien-être, du mieux-être, se traduisait le plus souvent par un prosélytisme bête. Alors ils discouraient longtemps, eux et leurs amis, sur le génie d'une pipe ou d'une table basse. Ils en faisaient des objets d'art, des pièces de musée. Ils s'enthousiasmaient pour une valise. Ces valises minuscules, extraordinairement plates, en cuir noir, légèrement grenues, que l'on voit en vitrine dans les magasins de la Madeleine et qui semblent concentrer en elles tous les plaisirs supposés des voyages éclairs à New York ou à Londres. Ils traversaient Paris pour aller voir un fauteuil qu'on leur avait dit parfait. Et même connaissant leur classique, ils hésitaient parfois à mettre un vêtement neuf tant il leur semblait important pour l'excellence de son allure qu'ils aient d'abord été portés 3 fois. Mais les gestes un peu sacralisés qu'ils avaient pour s'enthousiasmer devant la vitrine d'un tailleur, d'une modiste ou d'un chausseur ne parvenaient le plus souvent qu'à les rendre un peu ridicules. Peut-être étaient-ils trop marqués par leur passé. Et pas seulement eux d'ailleurs, mais leurs amis, leurs collègues, les gens de leur âge, le monde dans lequel ils trempaient. Peut-être étaient-ils d'emblée trop voraces. Ils voulaient aller trop vite. Il aurait fallu que le monde, les choses, de tout temps leur appartiennent. Et ils y auraient multiplié les signes de leur possession. Mais ils étaient condamnés à la conquête. Ils pouvaient devenir de plus en plus riches, ils ne pouvaient faire qu'ils l'aient toujours été. Ils auraient aimé vivre dans le confort, dans la beauté, mais ils s'exclamaient, ils admiraient. C'était la preuve la plus sûre qu'ils n'y étaient pas. Voilà donc pour ce soir le début de ce roman de Georges Perec, Les choses, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.